franceinter.fr.
Bonjour à tous. En cette période préélectorale où les grands projets et les grandes promesses se succèdent sur les estrades, Interception vous propose ce matin de réfléchir à une expérience en cours. Nous allons dans une entreprise. Une entreprise dans laquelle le président gagne le même salaire que les employés à quelques dizaines d'euros près. Une entreprise totalement dirigée par ses ouvriers qui partagent leur temps de travail entre les tâches de gestion, de production et de commercialisation, sans oublier la réparation des machines lorsque cela est nécessaire. Nous sommes à Gémenos, près d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Jusqu'en 2014, l'usine porte le nom de Fralib. Elle appartient au groupe Unilever, un géant mondial propriétaire de dizaines de grandes marques de l'alimentaire, du cosmétique et des produits d'entretien. À Gémenos, pendant des années, Unilever produit des millions de doses de thé sous sa marque Lipton et des infusions éléphants. Jusqu'à ce jour de septembre 2010, où la direction décide de déménager l'usine, là où les coûts de main-d'œuvre, comme disent les économistes, sont moins élevés. La décision suscite une mobilisation immédiate et massive des salariés. Ils bloquent l'usine, ils empêchent son déménagement, ils alertent les politiques, avec le soutien implicite de nombreux médias. Après plus de 3 ans de lutte, c'est le géant qui doit plier. Unilever laisse dans l'affaire une vingtaine de millions d'euros en indemnités diverses, ainsi que toutes les machines et les locaux. En septembre 2015, une cinquantaine d'anciens salariés relancent la production sous la forme d'une SCOP, une société coopérative de production. L'entreprise s'appelle désormais SCOP T. Elle a sa propre marque, 1336. 1336 comme le nombre de jours qu'aura duré le bras de fer avec Unilever. La survie et le combat des ex-Fralib interpellent bien sûr sur les modes de production, sur l'organisation de l'entreprise et du travail. Au-delà, elle nous interroge aussi, nous consommateurs, sur le rôle que nous sommes prêts ou pas à jouer pour soutenir ce type d'expérience. Les ouvriers aux commandes, c'est un reportage de Mathilde Dehémy et Jean-André Giannichini.
Interception, le magazine de la rédaction.
Voilà, il est là le bâtiment, là. Juste là, on n'a plus qu'à tourner. On vient juste de traverser la grande et longue zone industrielle de Gémenos, près d'Aubagne, quelques kilomètres de Marseille. Et on va longer tout le bâtiment. C'est un très très long bâtiment, le bâtiment Fralib est désormais SCOP T. 12 000 mètres carrés. Aujourd'hui, l'usine ne tourne qu'à 15% de ses capacités. Oui, c'est là. On voit écrit en fait sur le côté non à la fermeture de Fralib, boycott Lipton. Tagué sur les murs juste à côté de l'usine.
Qu'on faisait qu'on aromatisait le thé ou qu'on faisait les infusions.
Il y a une odeur particulière ici. Hein.
Ouais. Là, tu sens l'odeur des plantes. Donc, tu as du tilleul, de la verveine, de la camomille, tu as du thé, tu as de la réglisse, parce qu'on fait le thé anis réglisse, etc. Et ben, c'est flagrant quand tu rentres, c'est flagrant. Et avant, voilà, parce que passé un moment, ça ne sentait plus rien. Quoi. Ici, tu retrouves ces odeurs-là, c'est sympathique. Quoi.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de goûter ? On a tout, hein. Tout ce qu'il y a là, on fait goûter.
Et moi, je voudrais un petit thé à la menthe, parce qu'il est tellement réputé.
Après, c'est pas un thé en infusion, tiens, pont cannelle ou des bois.
Leur joie est à la mesure du temps passé, de l'obstination déployée depuis 3 ans et demi. Les salariés rentrent victorieux dans leur usine. Unilever, leur ancien employeur, va leur verser 19 millions d'euros pour créer leur propre coopérative. En septembre 2010, l'usine, pas assez rentable, est fermée par Unilever. 76 salariés occupent le site, 1336 jours durant. Trois plans sociaux retoqués par la justice, des dizaines de manifestations et finalement, cette victoire, symbole d'une lutte sans relâche.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, Marc Décugis, directeur, actuellement directeur de la société, anciennement technicien de maintenance, 17 ans sur ligne, voilà.
Est-ce qu'on peut aller auprès de votre machine préférée ?
Machine préférée ? La plupart du temps, j'ai travaillé sur les plus anciennes machines, les TEPAC. Et puis, on m'a formé sur les plus grosses machines, les Molins. Les Molins, c'est celles qui font les sachets ronds, les anciens chai. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sachets ronds, les boîtes rondes vertes. Là. Donc là, c'est des machines qui tournent à 650 sachets minute. Je suis passé des vieilles machines à 180 sachets minute à 650. Donc effectivement, ça m'a fait un peu de changement.
Ça crachait à combien
À 650 sachets minute. Minute, ça fait 10 sachets seconde.
Pourquoi c'est votre préféré ?
J'ai passé quelques nuits intéressantes. Après, c'est toujours pareil, quand on est dans la technique, on aime bien les dépannages, on aime bien chercher le pourquoi du comment. Une fois que tu as tes bases et que bon, tu travailles régulièrement dessus, bon, tu t'aperçois que bon, tu as des pannes qui sont régulièrement, c'est toujours les mêmes. Bon, voilà. C'est des trucs, après une fois que tu prépares bien ta machine ou quoi, si tu étais rigoureux dans ton travail, bon, voilà, tu sors quelque chose de sympa et tu fais les quantités qu'il faut. Quoi. C'est un métier. Voilà, mais c'est pas fini. Hein. Moi, à mon avis, là, on est en train de faire des essais. Pourquoi pas faire du café comme les deux ZSNCO, combien ?
C'est la même forme.
La même forme, même diamètre. Ces machines-là, une fois qu'elles sont lancées, on peut produire, ça peut très bien produire rapidement, on peut sortir des quantités, on tourne à peu près, en boîte de 25, on tourne à peu près à 4-5 000 boîtes par machine, par quart, d'accord ? Nous, actuellement, on est à 2 quarts, donc on peut vite sortir à 8 000 boîtes, 8-9 000 boîtes en une journée sur des boîtes de 25, sur une machine. Vous vous rendez compte ? On en a 3. Avant la fermeture, cette usine-là, elle sortait à peu près 4 000 tonnes à l'année. On était presque 200 à l'intérieur pour tourner avec 2 équipes, 3 équipes matin, après-midi, nuit, une autre équipe de nuit, une équipe de journée, 2 équipes de week-end. Donc, il en faut du monde.
Et là, l'objectif, c'est de sortir combien de tonnes, combien de sachets ?
Ouf ! Si on arrive à... On arrive à 1000 tonnes, on est très bien.
D'une manière ou d'une autre, il faut le commander.
On le voit avec Luc s'il a pas.
Ok.
Par contre, l'intervention que vous avez fait avec l'axe et tout, là. Est-ce que vous l'avez mis ça sur le commun ?
Non.
Il faut marquer ça.
On voit tous les deux.
Voilà. Vous donnez le numéro de téléphone et vous cadrez le truc avec le mec. Donc c'est bien ça. On verra. Bon, allez.
Ok.
Hein, n'oublie pas avec Thierry là, de voir l'intervention. Tu sais, pour le commun.
L'axe, il a été commandé ?
Ouais, c'est bon.
Les roulements, les a. Il y en a mis 8, on en a pris 2. Ouais. Donc les roulements, ils sont là.
C'est bon. Allez, ok. Allez.
Merci.
Allez.
Vous faites toujours la tournée le matin, comme on vient de voir ?
Oui, toujours. Ouais. Par rapport au planning que j'ai mis en place, je vérifie les changements, les problèmes. On fait le point avec tout le monde, autant technique que packaging, logistique, tout ça. Quoi. Donc, comme ça, je suis au courant de tout et puis on voit ce qu'on fait avec la logistique et la qualité avec Nadine.
Vous me parliez des nuits blanches passées sur vos machines.
Oui.
Aujourd'hui, vous êtes directeur général de Scopti. Est-ce que vous passez toujours des nuits blanches?
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Faut pas se coucher avec les idées en tête, autrement c'est mort. C'est cauchemar. C'est grisant, hein, effectivement. Hein. On apprend énormément de trucs, mais ça prend énormément de temps. Effectivement, on dort moins facilement. C'est sûr, je vous confirme.
Qu'est-ce qui vous soucie?
Bah tout, hein, c'est pareil. Hein. Si on a les commandes qui arrivent pas, on fait le point sur les productions, on a des retards sur certains trucs, les modifications de machines, vu que je m'occupe de la production, de la maintenance. Donc voilà, il y a quand même des impératifs qui sont importants, ou si on n'a pas cette souplesse sur les technologies, bon, ben on a plus de difficultés. Donc si on prend ça à cœur, quoi, on se dit, bon, c'est normal qu'on soit inquiet. Hein. C'est des trucs qui se rajoutent en plus avec la gestion de la société, avec la gestion humaine, avec tout le monde, pour que tout le monde... aille dans le bon sens aussi, donc voilà quoi, c'est... Non, on s'ennuie pas. Hein,
c'est dur d'être patron ?
Ah, pas patron, mais pas patron, on a une mission, chacun a sa mission, point. Après, c'est un poste qui peut changer de personne, moi je le souhaite, hein, que tout le monde découvre un petit peu ce poste-là aussi. Hein. C'est pas un souci, hein. Moi je suis pas là, moi j'ai pas vissé ce poste-là. Hein. C'est pas moi qui ai voulu un poste comme ça, hein. Pas du tout. Alors après, s'il fallait le faire, voilà, on l'a fait, c'est tout, c'est comme ça. Le moment de signature avec le président de la République à côté, effectivement, ça fait quelque chose. Mais c'est vrai que bon... Non, il ne faut surtout pas qu'on se prenne le melon, parce que c'est pas la peine. Hein. C'est pas le but recherché, on n'est pas comme ça.
Là, vous allez faire quoi, par exemple?
Ah, ben là, je vais aller voir un petit peu les comptes, une fois que j'ai fait ma tournée avec tout le monde, voir où on en est des productions, tout ça, je regarde un peu les comptes. Et puis après, moi, j'ai mon côté aussi maintenance. Donc voilà, tout est lié, quoi, c'est super. Super intéressant, moi j'aime bien, hein, la technique, c'est mon truc. Hein.
On va retrouver Jean-Michel. Jean-Michel, c'est un passionné de machines. Il a 30 ans de métier. Il est en train de réapprovisionner une des machines à thé. Ces machines, en fait, fabriquent tout du début jusqu'à la fin. Le thé arrive en vrac sur le haut de la machine et ressort avec des sachets complets dans leur boîte.
Cette machine, elle confectionne complètement le sachet et la mise en boîte.
Pendant le conflit, Unilever avait laissé courir la rumeur que les ouvriers avaient cassé les machines.
C'est la preuve. Les machines sont intactes, les machines ont toujours été bichonnées. Pendant ce qui s'est passé, le conflit qui s'est passé, on les a entretenues, on les a graissées. On a tout fait pour que les machines redémarrent et dès qu'on a mis l'usine en marche, ben, les machines sont reparties au premier jour.
Vous l'avez reçu, vous, de la lettre de proposition de reclassement vers la Pologne?
Oui, elle a été refusée catégoriquement. Je l'ai refusée de fils. Je trouvais ça aberrant de partir en Pologne. En plus, ce sont des postes qui étaient on va dire fictifs, qui avaient été créés pour nous spécialement, qui n'existaient pas. Donc on se disait, on s'attend en quoi? On va aller travailler là-bas, pourquoi? Bon, c'est sûr que les médias, les gens de l'extérieur ont dit, vous n'allez pas travailler pour 6 500 € par mois. Mais ils n'avaient pas compris que c'était 6 500 € brut à l'année. Donc après, quand vous divisez tout ça, ça vous faisait un salaire de 400 et quelques euros. Quoi. Donc partir avec votre famille, apprendre le polonais, voilà, donc retrouver du travail, aller en Pologne, non. Après, il y avait des postes qui ont été créés aussi en France, dans d'autres organismes Unilever, de société. Pareil, c'était des emplois fictifs qui nous permettaient, c'est sûr, de trouver un emploi, mais après, on ne savait pas où on partait, si on allait être licencié dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc on a dit, ben non, on va tenir tête, et puis on s'est battu jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous a apporté aujourd'hui le résultat qu'il a aujourd'hui. Quoi.
Pourtant aujourd'hui, c'est pas simple. Aujourd'hui, les salaires, vous avez dû accepter de les baisser par rapport à vous qui aviez beaucoup d'ancienneté, notamment, j'imagine.
Oui, mais bon, c'est un choix qu'on a fait tous. Et puis voilà, comme j'ai toujours dit ici, on est une famille, on se bat pour nous, on se bat pour nos familles. Et pour moi, baisser le salaire, je n'ai aucun souci là-dessus. Même si c'est pour gagner 600, 700, 800 euros de moins qu'une éleveur, mais bon.
Il y a 3 types de salaires, c'est ça, 1600, 1000, je ne sais plus.
Alors il y a 1600, après il y a 1670 pour les mécanos, et après le salaire bon, du PDG qui est tout à fait normal, quoi, le directeur.
Et c'est 1900?
Voilà, c'est ça.
Ça a été long quand même comme combat, plus de 3 ans et demi. Hein.
Très long, émouvant, des hauts et des bas, des Noëls, des Nouvel An passés ici, à garder l'usine jour et nuit, moralement, physiquement, c'était dur quand on rentrait chez nous. Il y a eu malheureusement des divorces, des séparations, des conflits dans les ménages. Donc tout ça, bah avec les médias, les soutiens extérieurs, ça nous a beaucoup aidé aussi. Parce que je ne pense pas qu'on aurait tenu 365, 1336 jours. On aurait peut-être tenu que 1000 jours ou 600 jours. Mais d'avoir la solidarité extérieure et puis le soutien extérieur, ça nous a beaucoup épaulé, beaucoup aidé.
Vous le ressentez aujourd'hui encore, cette solidarité extérieure ?
Écoutez, moi je fais des dégustations extérieures en dehors de mon travail, le vendredi, le samedi. Dans les magasins. Et je peux vous dire que on en a encore des frissons, la chair de poule, quand on parle avec les gens, qu'on explique l'histoire qu'on a vécue. Certains savent ce qu'on a vécu, d'autres ne savaient pas ce qu'on avait vécu. Donc ils disent, mais c'est quoi ce produit 13336 ? Alors on leur explique. Ah, je dis, mais oui, c'est vous, j'ai entendu parler de vous. Et puis là, bon, les gens sont tellement touchés que, bon, j'en ai vu encore, même des gens, des couples qui avaient les larmes aux yeux de savoir ce qu'on a vécu, par quoi on est passé, quoi. Et c'est énorme pour nous. Mais on leur dit, mais c'est grâce à vous aussi. Il faut leur dire, ça, c'est vous qui nous avez soutenus, c'est vous qui nous avez aidés, c'est vous qui achetez nos produits, puis ben, pourquoi pas battre la multinationale un jour.
Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Merci à vous.
Christian, vous allez où là ?
Nous allons à Bulles-et-Baronnie récupérer une big bag à notre fournisseur de tilleul millésime. Un big bag, ce sont les gros sacs de grande contenance où on peut mettre jusqu'à 300, 400, 500 kilos sur ce que c'est comme produit.
Vous avez beaucoup d'heures de route ?
Il faut compter à peu près 3 heures, peut-être un peu moins de 3 heures de route pour aller jusqu'à Bulles-et-Baronnie en partant d'ici de Gémenos.
Et là, ils vous ont appelé ?
Oui.
Ils sont tellement sympas que...
Oui, oui. On mange chez l'habitant et tout.
Ils sont tellement sympas que...
Oui, oui. C'est vraiment des braves personnes. Et on est toujours bien accueillis, oui, toujours.
On y va ?
Allez, on y va. De suite.
Ils sont 42 salariés, plus une poignée d'anciens fralibs qui attend toujours d'être embauchés. Pour faire tourner l'usine, les coopérateurs ont appris la polyvalence. Certains sont partis au Vietnam négocier l'achat du thé. D'autres vont régulièrement chercher les plantes pour les infusions.
Ouais, ça je m'en rappelle. Là, il est là, le dépôt. Nadine, elle m'avait dit que c'était là, on arrive. Mais je ne me rappelais pas d'ici, tu vois.
Peut-être que je me mette un cul, moi.
Gaffe, la Fiat, que tu ne fasses pas une...
Vas-y, fais la rentrée.
Que c'est une 500, qu'on ne fasse pas une 250.
À 450 mètres, tournez à droite, puis arrivez à destination.
On y est à destination, quoi.
Voilà. Mais non, François, arrête.
Jean-Jacques, c'est Christian, nous sommes arrivés.
Bon, ben, si tu as le message, ben, c'est bon.
Allez, à tout à l'heure.
On est où, là, Christian ?
Nous sommes dans les locaux de Center Alpes-Provence à Bulles-et-Baronnie et c'est notre fournisseur pour le tilleul de Bulles-et-Baronnie, le tilleul millésime.
Qu'est-ce qu'on sent, là ?
Ah ben là, on sent tout un tas de plantes. Hein. Là, on sent, il y a de la verveine, il y a du tilleul. Bon, venez voir, ça, c'est les bourriches de tilleul. Alors, les bourriches, ce sont les gros sacs lors de la cueillette que l'on pose au sol. Et on coupe les branches du tilleul et après, on récolte les bractées qui sont en fleurs. C'est vraiment un tilleul d'excellence. Non.
C'est quoi qui est de meilleure qualité ? Les feuilles, les fruits, le...
L'arôme, le goût, la couleur est toujours aussi bien dorée, ensoleillée. C'est l'excellence du tilleul. C'est vraiment l'excellence du tilleul.
Tu vois le tilleul ? Quand tu le récoltes, il est là-dedans.
Oui, il est bourriche.
Ça, là, ben, c'est le tilleul. Ouais.
Et pour faire ça, il faut des heures et des heures de cueillette pour faire ça. Des heures. Ça prend un temps, enlever les bractées, que les fleurs des branches, ça prend un temps.
C'est énorme.
Ah oui.
Alors après, il faudrait qu'on puisse le ressortir après.
On y arrive quand même.
Ouais,
mais avec une sangle quand même.
Ouais, avec une sangle.
Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé.
Des papiers à prendre ?
Non, c'est bon, ils avaient tout pris la dernière fois. Oui, oui, oui. Enfin, hormis si vous voulez vraiment quelque chose pour le transport, si vous faites arrêter, mais...
Non, on dira que c'est du cannabis, c'est ça, on va les faire rire.
Ouais.
Histoire qu'ils nous gardent un garde à vue, comme ça on n'a pas le retour à faire cette nuit.
Quoi que, ouais, faites-moi un papier quand même.
Vous voulez un bon
transport ? Ouais, comme quoi, ouais, si jamais.
Je ne suis qu'une feuille de thé qui ne veut pas être mélangé à leur arôme artificiel, à tous leurs produits poubelles. Moi je veux aller chez Scopti, où les ouvriers sont mes amis. Ils ont une autre idée de la vie, où il y a le partage aussi. Stop.
L'usine de Gemnose avait un savoir-faire unique, c'est-à-dire qu'elle créait elle-même ses propres arômes. C'est elle qui fabriquait les arômes pour l'ensemble du groupe Unilever. Unilever s'est tourné vers l'aromatisation synthétique, donc de l'arôme encapsulé, mais qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'on fabriquait avant. J'ai surtout le goût des derniers Lipton qui ne me plaisait pas du tout.
Votre laboratoire, c'est quoi? C'est une simple paillasse? C'est ça, en fait? Vous n'avez pas besoin de grand-chose comme matériel? Vous avez besoin d'une bouilloire?
J'ai besoin de bouilloire, j'ai besoin de tasses de sets spécifiques. Voilà, ça, ce sont des sets de dégustateurs de thé. Ça, c'est un échantillon moyen des deux big bags que l'on a réceptionnés. Ici, c'est sur une formule où j'ai rajouté 10% des parties élevées. Et ici, où j'ai rajouté 5,5% des parties élevées. Donc, il reste la partie dégustation. Donc là, on va attendre que ça infuse 5 minutes. La température et le temps, c'est hyper important. On a des gens qui nous disent, je mets le sachet dans l'eau froide et je le mets au micro-ondes. Ah oui, oui. Ah oui, on en a qui font ça. Ou alors, il y en a qui laissent le sachet pendant des heures. Si on marque un temps, c'est qu'il y a vraiment une raison. Un thé que vous allez faire comme ça, juste deux, trois fois dans l'eau, vous allez avoir tout le tanin qui va sortir en premier. Vous n'allez avoir que ça. Et plus, si vous le laissez trop longtemps, si vous le laissez au-dessus des 3-4 minutes, c'est toute une amertume. Et là, c'est vraiment amer. Le produit de cette année, le millésime de cette année 2016, a quand même une note inférieure par rapport à celui de l'année dernière. C'est pas anormal. Il a énormément plu, justement, juste avant la récolte, encore en plus. La couleur est beaucoup plus, qu'on va dire, ensoleillée sur celui de 2015 par rapport à celui de 2016. Et ce goût de, on peut pas dire le goût de soleil, mais ce goût de fleurs, de miel et tout ça, on le retrouve plus difficilement. Il est très bon, mais il a une note en dessous quand même.
Vous étiez parti, vous?
Oui.
Vous étiez parti d'Unilever?
Eh oui.
Pourquoi vous êtes revenu?
Au début, je suis revenu simplement pour les aider dans leur lutte. Parce que vous ne travaillez pas avec des gens durant des années. C'est quelque part, c'est plus maintenant, mais quelque part, ils font partie de vous, ils font partie de votre famille.
Marie, c'est vous qui avez goûté en premier?
Oh, on n'a pas de... Non, chacune déguste comme ça lui dit.
La seule chose que l'on demande lors d'une dégustation, c'est le silence. Moi, personnellement, et pratiquement tout dégustateur, c'est la concentration qui prime.
On va vous laisser, vous allez faire quoi maintenant?
Eh ben, je vais faire un autre travail, c'est-à-dire que je vais essayer de récupérer un petit peu mes dossiers là, que j'ai laissé un petit peu en plan pour d'autres occupations.
Il n'y a pas que des feuilles de tilleul en fait, il y a des feuilles de papier partout sur le laboratoire.
Oui, oui, oui.
Merci
voilà.
Beaucoup.
Merci à vous.
Je m'appelle Gérard Cazorla et donc j'étais technicien de maintenance avec Fralib et Unilever. Et aujourd'hui, je suis effectivement président du conseil d'administration de Scopti, mais non rémunéré.
Aujourd'hui, vous touchez le chômage, en fait, et vous êtes président bénévole de cette coopérative, c'est ça?
Oui,
hein, ça
oui je peux l'être. Je peux être président d'une structure et être pour l'emploi, oui. C'est comme ça. La Scop n'est pas encore pérenne. n'est pas encore sorti d'affaire, je dirais. Et donc, si on peut économiser sur une masse salariale supplémentaire qu'elle n'a pas besoin aujourd'hui, ben, voilà, on se débrouille comme ça.
J'avais envie de vous montrer en fait une vidéo. Ouais. C'est une vidéo qui date du 4 juillet 2014.
D'accord, c'est la fête. On a pleuré beaucoup dans ce conflit. Hein.
Chers et chers camarades, merci d'être venus si nombreux fêter avec nous ce moment de victoire du monde du travail contre le monde du capital. 1336 jours d'une lutte juste et légitime, refusant la fatalité de la fermeture de notre usine qu'Unilever avait programmée depuis des années dans son plan de croissance de ses profits. Et cette fois, c'est notre classe qui l'a emporté. N'en déplaise au MEDEF et à ses alliés.
Ah, vous avez les larmes aux yeux.
Ah ben c'est la victoire. Hein. C'est, voilà, on a gagné une lutte importante pour le monde du travail. Et voilà, c'est un autre combat aujourd'hui. C'est plus de la lutte sociale. Celle-là, on l'a gagnée, plus personne ne peut nous l'enlever. C'est écrit. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, on estime qu'ils souhaitent nous voir réussir. Donc pour cela, on se doit de donner tout pour y arriver. Et il y en a d'autres aussi qui nous attendent au tournant pour, et qui souhaiteraient qu'on se casse la gueule. Mais pour cela, on essaye de se battre justement pour continuer à vivre.
Aujourd'hui, vous en êtes où ? On sent que c'est encore un peu compliqué, difficile pour se lancer.
Oui, c'est compliqué parce que nous, on a tout reconstruit. Donc, on est parti, je ne dis pas de zéro, parce qu'on est parti avec des moyens financiers qu'on a tirés de la lutte sur Unilever. Mais aujourd'hui, les 3 millions d'euros qu'on avait entre le capital des salariés qui ont mis, plus ce qu'a versé Unilever, ben, on sent bien que c'est juste. Et la philosophie de ce projet, donc voilà, c'est aussi l'achat de matières premières en France au maximum. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé deux marques. La marque 1336 qui est destinée à la grande distribution parce que au vu de la grandeur de l'usine, il nous faut beaucoup de volume pour amortir les coûts. Et la marque Scopti, la marque bio, qui elle est plus dans la philosophie de notre projet avec de l'achat de matières premières en France sur les plantes aromatiques et médicinales.
Il y a une troisième branche qui est de fabriquer pour des distributeurs.
Perru, Leclerc, Intermarché et on va bientôt avoir Carrefour.
Bonne nouvelle pour vous.
Oui, bien sûr, c'est tombé il y a deux jours. Donc on a trois produits à faire pour Carrefour d'ici le mois de juin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est des volumes supplémentaires, ce qui nous permet aussi d'atteindre nos objectifs, puisqu'on avait estimé sur 3 ans de pouvoir monter sur la marque des distributeurs entre 300... et 350 tonnes. Donc aujourd'hui, on est quasiment à 300 tonnes. Donc voilà, on va chercher les 50 autres tonnes qui nous manquent, mais je pense que ça arrivera rapidement dans l'année 2017.
Monsieur le Président, donc, quels sont vos objectifs pour 2017 ?
Ben, nos objectifs, c'est d'être à l'équilibre, hein. Même si on pense qu'on va être encore légèrement en perte, mais il faut que la perte soit légère.
Là, aujourd'hui, vous perdez beaucoup d'argent ?
Aujourd'hui, oui, on perd beaucoup d'argent. On perd quasiment 100 000 euros par mois aujourd'hui. Donc voilà, il faut qu'on arrive à cet équilibre-là. Et je pense que 2017, une année pleine, on va y arriver. Ben, aujourd'hui, c'est clair, on a une usine qui fait 12 000 m². On a un outil de production surdimensionné. On a des machines qui ne tournent pas. On doit être aujourd'hui à 15% de notre capacité de production.
Là, on a la boutique là-bas au bout, des produits de l'association, là on a le réfectoire. Là, aujourd'hui, on est en production sur Leclerc.
C'est marrant, j'aurais pensé que, quand vous étiez directeur général, délégué, vous auriez un costard, et là, on vous a quitté, vous avez mis votre blouse, quoi.
Ouais, travail.
Les bureaux de la direction, c'est ça ?
Non, de haute direction.
Olivier Leberquier aussi était l'un des meneurs du conflit. Il se retrouve aujourd'hui directeur général délégué de Scopti et délégué CGT.
Voilà.
Est-ce que ce sont les bureaux d'origine de la direction ?
Non. C'était le planning qui était là.
C'est la première fois que je vois un bureau de patron avec le portrait du chef au-dessus du bureau.
Vous allez à Cuba, dans les entreprises, il y a le chef partout.
Regardez, là, direction ressources humaines syndicat. Tout est au même endroit.
Là, je sais pas si on peut le lire, peut-être qu'il y a prescription. Ça, c'est la clé du ministère de l'Agriculture.
On avait été occupé le ministère de l'Agriculture, il y avait une grande porte en bois et un copain est revenu avec ça. Et donc peut-être qu'il faudra qu'on la rapporte.
Vous avez volé la clé de Stéphane Offa, là ?
Ouais, on peut dire ça comme ça.
Voilà.
C'était donc l'International avec une boîte à musique sur le bureau d'Olivier Leberquier.
C'est
pas la facture.
Alors,
c'est bizarre
que vous avez...
Ben ouais, je sais pas, j'ai appelé ça. Oui, beaucoup Isa. Dis-moi, le PCF 84, tu sais la facture, toi, le total, ça fait combien ?
Comment lancer un projet quand il manque une partie des métiers ? À l'issue du conflit, la plupart des cadres étaient partis. Les administratifs aussi étaient partis. Il a donc fallu trouver une solution. Et cette solution, les SCOPTI l'ont trouvée en interne, en formant des gens qui n'avaient pas les qualifications requises à l'origine. Et c'est ainsi que Chantal, retraitée, bénévole, a formé RIM à la comptabilité.
Je me suis arrêtée il y a 6 ans plein. J'ai une formation d'expert comptable, donc j'ai un diplôme d'expertise comptable. Et en activité, je travaillais dans une industrie agroalimentaire. C'est pour ça qu'on m'a demandé si je pouvais aider au démarrage ici, parce que j'avais des connaissances dans l'industrie agroalimentaire.
Un gros groupe, hein.
Et je travaillais, oui, pour la société Haribo.
Mais quel a été le déclic ? Pourquoi tout d'un coup vous êtes dit, je vais prendre du temps, mon temps, pour venir donner un coup de main ?
Je me suis dit que toutes les années, on travaille 40 années. Bientôt, vous travaillerez 42, 43, 44.
On va s'arrêter là, quand même.
Et à la fin, toute votre expérience, vous en faites rien, quoi. C'est tout un acquis qui ne sert plus. Alors, je me suis dit qu'il fallait l'utiliser. Il n'y avait pas de raison. Ça allait servir à quelqu'un.
Alors, là, quelqu'un, c'est RIM, justement. RIM, qu'est-ce que vous a appris, Chantal ?
Mon Dieu. Énormément de choses. Déjà, elle m'a fait appréhender le monde de la comptabilité en matière, j'allais dire, théorique, mais sur le tas, parce que j'étais obligée de faire.
Au fur et à mesure que les difficultés se présentent, on essaie de les résoudre. Donc, je lui explique.
C'est un apprentissage au quotidien. C'est voilà. Apprendre sur le tas avec, un mastodonte de la compta.
C'est une bonne élève, RIM ?
Oui. C'était pas évident dans une structure où il n'y avait plus aucun administratif pour RIM de devoir remplir ce poste. Et c'était courageux d'accepter de faire quelque chose de totalement différent de ce qu'elle faisait quand elle était en activité.
C'est un nouveau métier.
Parce que vous étiez quoi, RIM, avant ?
À la base, anciennement dans l'entreprise, j'étais opératrice machine et au laboratoire qualité, contrôleuse qualité.
RIM se débrouille très bien maintenant toute seule, sauf quelques cas particuliers où à ce moment-là on discute toutes les deux et voir les solutions qu'on va trouver.
Le soutien d'une personne qui a une pratique et une expérience dans l'entreprise, ça n'a pas de prix.
Mais c'est un plaisir, hein, intellectuellement, ça fait marcher les neurones. Ça fait du bien de faire marcher sa tête.
Qu'est-ce que vous allez faire là ? On va vous laisser travailler.
Contrôle facture.
Ouais, salut Thomas. Ouais, Olivier, salut. Ça va, tu vas bien?
Ouais, ouais, ça va, super, et toi?
Ça va, ça va. Bon. Dis-moi, là, je vais à Auchan au bagne, là. J'ai un rendez-vous avec Pascal Perron, là, le directeur du magasin.
Tu feras une bise de ma part.
Ça va, je ne manquerai pas. Dis-moi, les journalistes, ils me demandaient, ils auraient bien voulu savoir comment tu t'y prends quand tu es en négociation, notamment avec les structures au niveau national, pour arriver à vendre le 1336 avec toute l'histoire qu'on a derrière.
C'est très intéressant vis-à-vis des distributeurs parce que certains prennent cette histoire de manière un petit peu particulière. Il y en a qui ont à cœur de faire travailler des gens qui ont osé maintenir l'activité en France et se battre pour leur outil de travail. Au-delà de la lutte syndicale, pour sauvegarder des emplois en France, faire progresser un bassin d'emplois autour de Marseille, sauvegarder le savoir-faire sur le territoire. Et finalement, quand on regarde ça avec du vue macro, on s'aperçoit que les distributeurs, demain, s'il n'y a plus d'usine en France, leurs clients, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont faire leurs courses, quoi.
Ok, bah écoute, on arrive sur le parking d'Auchan au Bagne, là, donc je vais aller voir un des acteurs qui n'est pas bloqué.
Voilà, exactement.
Pourtant lui, il aurait pu se bloquer dès le départ parce que son magasin, on l'a visité plusieurs fois pendant la lutte. Ok Thomas, bah écoute, on se rappelle certainement dans la journée. Sinon, si je t'ai pas d'ici là, on prévoit la réunion téléphonique vendredi dans la matinée.
Ok, ça marche. Bah écoute, j'avance de mon côté et puis je te souhaite une super journée.
Toi aussi, ciao.
Allez, à plus.
Bonjour.
Ça va bien?
Je vous reçois vite parce que j'ai le logistique à assurer. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Eh bien, peut-être on va vous demander de vous présenter.
Pascal Perron, directeur du magasin d'Auchan au Bagne. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? C'est tout.
Non, on est avec Olivier Leberquier.
Que je reçois régulièrement, donc depuis quelques années. Avant, il venait sans s'inviter, maintenant on essaye de prendre un rendez-vous. Et c'est avec un grand plaisir que je le reçois à nouveau.
La lutte des Fralibus, ils vous en ont fait voir de toutes les couleurs ici?
Non, pas de toutes les couleurs. Je pense qu'on a la chance d'avoir un magasin qui reçoit beaucoup de clients tous les jours. Donc c'est une chambre déco naturelle, j'ai envie de dire. Et comme toute chambre déco, ben, elle a eu son petit retentissement pendant un moment donné, mais rien de bien grave, non.
En fait, on rentrait dans les magasins, pas que celui-là. Hein. Celui-là, comme il est près de notre usine, c'est vrai qu'on l'a visité assez régulièrement. Et on sortait les produits de tous les produits d'Unilever et ils sont nombreux. Hein. Unilever, quand j'étais encore dans Unilever, la tendance était de dire dans le caddie de la ménagère, quand tu rentres dans une grande surface, il y a à peu près 50% des produits du caddie en agroalimentaire, en cosmétique, qui sont des produits d'Unilever. Donc c'est important. Et donc on enlevait les produits, on les mettait dans les caddies et on les ramenait en réserve. Voilà.
Quand on est directeur d'un aussi grand magasin, c'est pas le genre d'opération qu'on apprécie.
Bon, ça nous permettait aussi de nettoyer les étagères, donc il faut prendre le bon côté des choses. Voilà.
Aujourd'hui, au rayon T, est-ce que vous vendez du 1336?
Je crois qu'on en vend pas mal, oui. Oui, on en vend pas mal, puisqu'on a en permanence ce qu'on appelle dans notre jargon deux têtes de gondole qui sont dédiées à ces produits-là. Une sur les produits classiques épicerie et une sur les produits biologiques. Donc une gamme qui est appréciée d'un côté et de l'autre par nos consommateurs depuis le premier jour. Je pense qu'il se pose un réel challenger d'une maison qu'il vient d'évoquer. Et si la réussite est là, c'est peut-être pour le retentissement médiatique d'abord, mais surtout pour la qualité des produits.
On est quoi, sur du 10%, 20%?
Je me rends pas compte. Qu'on est au-delà de 15%, oui, voilà.
D'accord, du rayon
thé, oui, thé infusion, voilà.
Qu'est-ce qui vous a motivé à vendre ces produits?
Alors, je suis dans une entreprise qui se doit d'être responsable vis-à-vis de son économie locale. Donc, c'est dans cette même logique que l'on a travaillé dès le premier jour avec la Scopti, parce qu'il était naturel, un, que l'on travaille des produits locaux, et deux, que l'on travaille des produits attendus par nos consommateurs et fabriqués par certains de nos clients. Donc,
voilà. Est-ce que vous nous autorisez, nous, à aller dans les rayons
Je vous autorise même à acheter des produits, si vous le souhaitez.
Eh bien, on va faire. Sachez-le, on va faire.
Ça m'étonnerait, il a dû vous offrir des échantillons.
Non, pas du tout. Il faut partir avec un petit sac.
Merci beaucoup.
Là, on est devant le rayonnage de thé infusion,
ouais.
Avec les trois quarts du rayonnage occupé par des produits Lipton.
Ouais.
au cœur de la lutte, vous arrivez dans les rayonnages, vous videz tout le rayon.
Ah ouais, tout ce qui était Unilever, on vidait. Tout. Alors la seule chose qu'on faisait, parce qu'on est des gens sérieux, même si la direction à cette époque-là nous faisait passer, ils ont même utilisé des termes de, qu'on était des talibans, qu'on était des voyous, une organisation mafieuse. On avait quand même un peu le sens de des responsabilités quand même, il me semble, on l'a prouvé, on continue à le prouver. Et quand on venait ici, c'était pour sensibiliser les consommateurs sur l'action qu'on menait, parce qu'on le faisait, il y avait ceux qui étaient sur place qui le voyaient, mais surtout on le médiatisait derrière. Nous, on vidait les rayons, et l'idée, c'était aussi de les appeler à nous aider à boycotter les produits pour faire en sorte d'imposer à Unilever de venir négocier. Et donc nous, la consigne qu'on donnait aux copains quand on rentrait dans les magasins, c'est on prenait tout ce qui était alimentaire, cosmétique, on les ramenait en réserve, comme ça, au moins pendant un moment donné, ils n'étaient pas visibles des consommateurs, donc vous pouvez pas les acheter. Et
tout ça, c'était vidé, quoi.
Et tout ça, ouais, il n'y avait plus de Lipton. Je sais pas, Twinning, hein. Twinning, c'était pas nous, mais tout ce qui était Lipton, Elephant, dans les autres rayons, Carte d'or, Dope, Signal, enfin tout ce qui était avait frappé du petit U d'une île verte, on vidait les rayons.
Merci Olivier.
Voilà.
Pour faire soi-même du thé à la menthe, faut du thé.
C'est de la menthe.
Ah
oui, évidemment, on se met les caisses comme ça.
Vous avez une autre idée?
Oui, le thé vert à la menthe de l'éléphant. Le thé vert à la menthe de l'éléphant, c'est plus simple. Et c'est très bon. Thé aromatisé éléphant.
On les a l'été hier.
Marie Sasso est embauchée en 1974 sur le site historique Flammarion à Marseille. 42 ans d'ancienneté au service du thé éléphant. Ça représente quoi éléphant pour une Marseillaise comme vous?
Ah, éléphant, c'est très important. D'ailleurs, on s'est battu, on voulait garder la marque. Quand j'ai été embauchée, c'était le thé de l'éléphant. C'était pas Fralib. C'est après que c'est devenu Fralib, je crois, en 81, je crois. Voilà, c'était l'époque thé de l'éléphant. C'était pas un grand groupe, hein, c'était familial. Et on s'est battu, on voulait garder notre marque. Hein. Quand je suis rentrée, c'est ce qu'on appelait, à nous appeler les petites mains. C'est nous qui remplissions les machines. Le thé ou l'infusion, enfin, on remplissait la machine. Et tous les rouleaux d'emballage, que ce soit enveloppe, étiquette, papier filtre, on portait tout à la main. C'est ce qu'on appelait les petites mains, on faisait ça.
Vous avez quel âge?
59. Je suis bientôt à la retraite, dans 4 mois.
Vous avez signé un nouveau contrat en CDI à quel âge?
À 59 ans, cette année.
Aujourd'hui, vous vous considérez comme... On vous appelle comment d'ailleurs? Vous êtes salarié, vous êtes coopératrice?
Salarié, coopératrice.
Vous êtes votre propre patron?
Ouais, mais ça, on va pas l'entendre, ça. On s'en fout des patrons. Je me sens pas patronne, hein, moi. Des fois, en plaisantant dans ma famille, ils me disent « Oui, mais maintenant, tu es patronne. » Ben, je suis pas patronne, moi, je fais le même travail que je faisais avant. Il n'y a rien qui a changé. Voilà.
Parce que ça vous donne des responsabilités en plus?
Oui, aujourd'hui, c'est vrai que ben déjà, le fait d'être coopératrice, donc on se dit... en plus, je suis à la qualité, donc il faut qu'on sorte de la qualité. Et puis, s'il y a des heures à faire, eh ben, on ne regarde pas, on les fait. On ne dit pas, ah non, je dois partir, à part si on a des impératifs. Mais tous, on joue le jeu, s'il faut rester parce qu'il y a des impératifs, eh ben, on reste et puis on fait ce qu'il y a à faire. Ça, c'est un peu ce qui a changé. Parce qu'à l'époque de Unilever, regarder la pointeuse, on badgeait à 13h, on ne faisait pas d'heure, quoi. Mais là, on voit que tout le monde joue le jeu. Les gens des bureaux, s'il y a du travail dans l'atelier, ils viennent, hein, ils viennent nous aider.
Vous allez être à la retraite, donc, bientôt?
Oui.
Vous allez continuer à boire du thé?
J'en bois pas. Je bois du café. Mais je viendrai aider mes collègues. S'il y a des coups de bourre, je serai là. Ils le savent. Ils peuvent compter sur moi.
La marque Elephant est restée propriété d'Unilever. Elle est fabriquée désormais en Pologne et en Belgique. La nouvelle appellation des Scopti manque encore de notoriété. Il faut convaincre presque un par un les supermarchés de vendre le T1336. 20% des ventes sont des commandes de particuliers et surtout de soutiens militants. C'est Yves qui prépare les colis.
Moi, je suis rentré en 1995. Prénom, ça fait 20 ans, 21 ans. Non. Si, oh, oh, oh. Ah oui, 21, c'est vrai. 21 ans d'ancienneté. Entre-temps, vous avez eu les 4 ans de lutte, les 1 an de création de l'entreprise. On est parti dans la lutte, on ne savait pas où on allait, on a gagné la première étape. Là, on est dans une autre étape. On met tout ce qui est humainement possible, tous les moyens possibles pour rendre notre scope pérenne. Ben après, il n'y a que l'avenir qui nous le dira, parce que on n'a pas réinventé le système. Hein, on est dans un système capitaliste, on travaille avec des gens capitalistes. Et généralement, quand vous avez comme ça des parts de marché, entre guillemets, qui sont prises par d'autres, par des alternatives, ben ça ne leur fait pas plaisir. Parce que leur but du jeu, c'est de récupérer toutes les parts du marché. Et donc voilà, c'est une lutte de tous les jours. Il y a des scopes qui réussissent, mais sinon, il y a des scopes, il faut attendre peut-être 3, 4, 5 ans. Et si on passe le cap de 5 ans, oui, là, c'est bon. Donc voilà, il faut revenir dans 5 ans. Si on est encore là, ça veut dire que c'est bon, on est à vitam aeternam. Mon pari à moi, il sera gagné quand je partirai à la retraite. Alors, je ne sais pas si ça va être à 65 ans ou à 70 ans, vu ce qui nous prépare. Mais quand je partirai à la retraite, que Scopti sera encore là, avec les valeurs qu'on a mises, c'est-à-dire qu'on sera toujours dans des produits naturels, au juste prix, et qu'on aura créé de l'emploi. Et qu'un jour, je reviens à l'usine parce qu'il y aura une grande fête et qu'il y aura des nouveaux qui seront là et moi, je serai en train de les regarder. Là, c'est bien, j'ai bien bossé.
C'était Les ouvriers aux commandes. Un reportage de Mathilde Dehimy, prise de son, Jean-André Giannichini, mixage, Jean-Baptiste Etchepare-Bord. Anne Hureau a réalisé cette émission avec le concours de Stéphane Combe, Zora Ben-Smaili et Romain Couturier de la documentation sonore de Radio France. Je vous souhaite une excellente journée.